Et le journal est présenté ce soir par Nicolas Ballu. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Toujours pas d'appel à un cessez-le-feu pour Gaza au Conseil de sécurité de l'ONU. La Russie et la Chine ont mis leur veto à la formulation américaine. Nous allons à New York dans un instant. L'offensive russe sur les structures énergétiques ukrainiennes. Moscou a procédé à des frappes massives sur le réseau électrique. Ainsi, une centrale hydroélectrique a été touchée par 8 missiles. La deuxième ville du pays, Kharkiv, n'a plus d'électricité. Accord franco-allemand sur le char du futur. Les deux pays se sont enfin entendus sur la répartition des rôles des industriels, nous dira Éric Biegala. Emmanuel Macron met la pression sur les parlementaires de la majorité. Le chef de l'État leur demande d'en faire un peu plus pour la liste conduite par Valérie Ayer à la peine dans les sondages pour les élections européennes. Le journal La Provence en ébullition. Une grève illimitée vient d'être décidée par les salariés après la mise à pied du directeur de la rédaction. Et puis nous prendrons le temps de nous arrêter sur un métier peu connu, celui de médiateur santé-père dans le cadre de la journée de la schizophrénie. Nous nous intéresserons également aux différents traitements contre le sida. Enfin, le problème à trois corps, ce n'est pas une maladie, c'est une série très attendue et adaptée d'un livre considéré comme l'un des plus grands romans contemporains de science-fiction, nous dira Pierre Robert. C'est un étrange ballet diplomatique qui se déroule sous nos yeux au fur et à mesure qu'une offensive israélienne à Rafah, dans le sud de Gaza, se rapproche. D'un côté, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, qui fait savoir au secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, que s'il le faut, Israël le fera seul, c'est-à-dire sans le soutien américain. De l'autre, le Conseil de sécurité de l'ONU, incapable de se mettre d'accord sur un appel au cessez-le-feu au Proche-Orient. Pékin et Moscou ont opposé leur veto à un projet de résolution américain. Washington, pour la première fois, soutenait le vote d'un texte mentionnant un cessez-le-feu immédiat dans la région, signe de pression accrue sur son grand allié israélien. Un texte condamné par l'opposition de la Chine et de la Russie. À New York, Loïc Loury.
Ce serait une erreur historique de ne pas adopter cette résolution, les mots de Linda Thomas-Greenfield, l'ambassadrice américaine. Mais la Russie et la Chine ne l'entendaient pas de cette oreille. Leur veto envoie le texte des États-Unis aux oubliettes. La diplomate s'est exprimée à l'issue du vote. Ce n'est pas juste cynique, c'est aussi mesquin. La Chine et la Russie ne voulaient simplement pas voter pour un projet rédigé par les États-Unis parce qu'ils préfèrent nous voir échouer que de voir un succès du Conseil, y compris après des consultations inclusives durant des semaines et des semaines. En face, son collègue russe dénonce l'hypocrisie des Américains et leur veto successif ici même depuis le 7 octobre à toute résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Vassili Nebenzia critique également le vocabulaire employé, le texte de Washington évoquant la nécessité d'un arrêt des combats mais sans exiger un tel cessez-le-feu. Quoi qu'il en soit, cette tentative ratée des États-Unis est le signe de leur frustration grandissante et d'une patience qui diminue sérieusement à l'égard de l'allié israélien et de ses opérations meurtrières à Gaza.
Loïc Loury, on apprend que le Conseil de sécurité de l'ONU se prononcera demain sur un projet de texte appelant clairement à ce cessez-le-feu immédiat. Le vote sur ce texte a été préparé par plusieurs membres non permanents du Conseil. Quant à la Russie, elle admet être en état de guerre, oui, de guerre, après avoir passé 2 ans à parler d'opérations spéciales en Ukraine. Moscou a procédé à des frappes massives la nuit dernière, attaques qui ont notamment visé le réseau énergétique ukrainien. Kharkiv, la deuxième ville du pays, se retrouve sans électricité ni chauffage. Valérie Krova.
L'attaque de cette nuit sur Kharkiv a été la plus importante depuis le début de la guerre, selon son maire. 20 missiles se sont abattus sur la deuxième ville d'Ukraine, qui se trouve à 30 km seulement de la frontière russe, ce qui la rend très vulnérable. Il n'y a plus de courant, ni de chauffage, et l'approvisionnement en eau est également perturbé. D'autres villes ukrainiennes ont été visées, notamment Odessa, au bord de la mer Noire, où l'électricité est également en partie coupée. Dans la région de Zaporijjia, la plus grande centrale hydroélectrique construite à l'époque soviétique, est hors de service. Elle a été touchée par 8 missiles. Au total, l'armée russe a lancé 90 missiles et 60 drones Shahed de fabrication iranienne sur plus de 130 installations, ce qui fait dire au ministre de l'énergie ukrainien que les frappes russes de la nuit dernière constituent la plus grande attaque contre l'industrie énergétique de son pays depuis le déclenchement du conflit par Moscou en février 2022.
Et à Moscou, justement, la réélection de Vladimir Poutine à peine assurée, la Russie place le mouvement international LGBT, je cite, sur sa liste des personnes déclarées terroristes et extrémistes, selon une notice du service russe des renseignements financiers. Le mouvement international LGBT avait déjà été banni par la Cour suprême russe en novembre 2023, même si aucune organisation ne portant ce nom n'existe en Russie. Cette formulation, bien que floue, avait ouvert la voie à de lourdes peines de prison. L'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022 a eu pour conséquence la prise de conscience d'investissement dans les projets européens de défense, mais les stratégies des États centrées sur la défense nationale se heurtent les unes aux autres et les questions de défense et de sécurité suscitent de nombreuses frictions. Il en est de certains projets franco-allemands. Eh bien, les ministres allemands et français de la défense ont annoncé aujourd'hui un accord sur ce qu'on appelle le char du futur, le MGCS, un projet commun aux deux pays. Éric Bégala, c'est la répartition du travail entre les industriels qui provoquait le blocage.
C'est véritablement un accord politique, mais il organise le projet d'étude et de fabrication de ce MGCS, l'acronyme qui désigne ce futur char, et ce de manière simple et parfaitement égale. Les industriels et bureaux d'études qui participeront à la chose seront à 50% français et à 50% allemands. 8 piliers ont été définis dans ce programme. Celui qui doit concevoir et réaliser la plateforme du char, le châssis, sa motorisation. Celui qui doit intégrer les feux dits classiques, le canon du char, sa tourelle. Autre pilier, celui qui doit concevoir et fabriquer les feux dits innovants, rayon laser par exemple, ou missile embarqué. Tout ce qui est futur capteur de l'engin, radar, senseur optique, etc., constitue un quatrième pilier. Il y a encore le développement de ce que l'on appelle le cloud de combat, les simulateurs, la protection de ces plateformes de combat, ainsi que l'étude des infrastructures qui seront nécessaires pour accueillir et maintenir en condition opérationnelle ces futurs engins de combat. L'horizon pour la mise en œuvre de ce MGCS sur les théâtres d'opération, c'est bien 2040. L'objectif reste inchangé, mais les premières notifications de contrats aux industriels pour les phases d'études tomberont dès la fin de l'année. Des contrats pour plusieurs centaines de millions d'euros seront notifiés aux industriels de défense français et allemands avant la fin 2024, jure-t-on du côté du ministère des Armées.
Au Conseil européen, Emmanuel Macron veut rouvrir l'accord européen trouvé mercredi pour reconduire l'exemption douanière accordée à l'Ukraine, tout en plafonnant certaines importations agricoles. Paris juge les restrictions insuffisantes. Plusieurs pays de l'Union sont sous pression de leurs agriculteurs à quelques semaines des élections européennes. Des élections qui se présentent mal pour la majorité et distancées dans les sondages par la liste RN de Jordan Bardella. Valérie Ayer, la tête de liste de la majorité présidentielle, organise une réunion en public à Bayonne ce soir, entourée de plusieurs ministres, mais le président espère bien voir ses troupes mobilisées plus largement. Il a d'ailleurs fait passer le message aux responsables des différentes sensibilités de la majorité, Rosalie Lafarge.
Il était en pétard, le président, raconte un de ses responsables. J'en entends beaucoup commenter, j'en vois assez peu agir, tacle encore Emmanuel Macron auprès de ses chefs de troupe, remonté visiblement par le faible nombre de députés présents au premier meeting de Valérie Ayer il y a 2 semaines. Presque tout le gouvernement avait fait le déplacement à Lille. Les parlementaires, eux, n'étaient que quelques dizaines. Loin d'être suffisant pour le chef de l'État, on ne peut pas, nous, ne pas défendre ce qu'on affiche comme notre ADN, aurait-il également ajouté. Si quelques députés admettent un manque de motivation, ils sont plus nombreux à relativiser. Le scrutin est encore loin, les Français n'ont pas la tête à ça, il reste du temps pour faire campagne, plaide une partie des macronistes, quand d'autres commencent à se montrer un peu plus alarmistes. Il est urgent de se retrousser les manches, assure ainsi un élu dans le camp des inquiets. Les grandes lignes du calendrier ont été tracées, on a 3 semaines pour faire connaître la tête de liste et défendre notre bilan, explique un membre du bureau exécutif de Renaissance. Viendra ensuite à la mi-avril le dévoilement de la composition de la liste, puis la mise dans le débat de 3 ou 4 idées forces poursuit toujours le même. En réalité, prédit un autre pilier, la campagne ne débutera réellement qu'après les ponts du mois de mai et il ne restera alors que 3 semaines pour convaincre. En tout état de cause, les troupes sont prévenues, elles sont attendues au tournant. Un trop mauvais score le 9 juin, que les macronistes s'interdisent pour l'instant de fixer, ne pourrait rester sans conséquence, veut-on déjà croire dans la majorité. Ce que le président, selon des propos rapportés par la presse, a ainsi résumé devant ses ministres au tout début du mois. Si en juin, on finit avec l'écart actuel, personne n'aura les fesses au sec.
L'exécutif qui doit faire face à un autre gros souci, le déficit 2023, pourrait être supérieur d'une vingtaine de milliards d'euros, supérieur aux estimations donc du gouvernement. Il faudra compléter l'effort budgétaire, affirme cet après-midi Emmanuel Macron. De nouvelles économies pourraient concerner les dépenses sociales ou des collectivités locales plutôt que le budget de l'État. La question de la taxation des super-profits des entreprises a été une nouvelle fois posée, cette fois par la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, n'a pas tardé à indiquer son désaccord. Grève illimitée au journal La Provence, une grève illimitée votée par les salariés après la mise à pied du directeur de la rédaction. La Provence est la propriété de Rodolphe Saadé qui vient d'acquérir BFM TV et RMC. Le journal est peut-être un peu plus scruté que d'habitude pour tenter de décrypter les méthodes du milliardaire. Or, ce qui est en cause, c'est la une du journal d'hier après la visite d'Emmanuel Macron. Le président était en effet à Marseille avant-hier pour vanter les mérites de ce qui est appelé l'opération PlaceNet XXL contre les trafics de drogue, une jugée ambiguë, Mathilde Vinceneuve.
Sur cette une de La Provence, la photo de deux hommes assis cité de la Castellane face à une patrouille de policiers et une citation en très gros « Il est parti et nous, on est toujours là ». Une citation d'un habitant qui explique au journal sa déception après la visite très médiatisée d'Emmanuel Macron dans le quartier pour faire la communication d'une opération anti-drogue. Mais pour la direction de La Provence, cette une est ambiguë, peut laisser penser que le journal a donné la parole à des trafiquants de drogue qui voulaient narguer l'autorité. Un mot d'excuse est alors publié. Le directeur de la rédaction mise en retrait. Une réaction incompréhensible pour Émilie David du syndicat CFE-CGC des journalistes de La Provence.
On a simplement fait notre métier en expliquant ce qui se passait et pourtant on met en retrait le directeur de la rédaction pour cette une-là. Donc c'est quoi la suite ? Comment on travaille ? On va être derrière nous pour relire tous les titres, valider tous les titres, on va être dans la peur.
La soudaineté de cette mise en retrait laisse penser qu'il y a pu avoir une pression politique, une ingérence de l'actionnaire de La Provence, la CMA-CGM, dont le patron Rodolphe Saadé est réputé proche d'Emmanuel Macron, un homme qui développe son empire médiatique avec l'annonce récemment du rachat de BFM et de RMC.
Des peines de 10 mois à 3 ans de prison avec sursis pour financement du terrorisme prononcées contre un ex-avocat de djihadistes et deux journalistes. Ils étaient jugés à Paris. Ils avaient notamment transféré des fonds à des membres du groupe État islamique, selon eux, pour les aider à quitter le califat et se rendre. La peine la plus lourde, soit 3 ans d'emprisonnement assorti du sursis simple, vise l'ancien avocat. En France, 200 000 personnes vivent avec le sida et 5 000 apprennent leur séropositivité chaque année. Or, l'épidémie pourrait être bien mieux gérée, estiment les associations, s'il n'y avait pas une telle méconnaissance à la fois de la maladie, des modes de transmission et de sa prise en charge. Bonsoir Mathilde Carion.
Bonsoir à tous.
Pourtant, depuis bientôt 30 ans, les traitements ont fait leurs preuves.
Oui, le plus connu, c'est la trithérapie. Développée dès 1996, elle permet aux patients infectés de vivre normalement avec le VIH, explique Florence Thume, présidente du SIDAction.
On est aujourd'hui, grâce à ces traitements, en mesure de rester en bonne santé, d'avoir des enfants, de mener une vie sexuelle épanouie, parce qu'en plus, ces trithérapies permettent de ne pas transmettre le VIH.
Depuis plusieurs années, la trithérapie s'est même allégée en bithérapie, avec non plus 3 mais 2 molécules combinées, que l'on peut prendre soit en cachet quotidien, soit en injection tous les 2 mois. Marina Kamorchkine est immunologiste spécialiste du VIH.
Pour le patient qui prend un comprimé tous les jours, que ce soit un comprimé de tri ou de bithérapie, en fait, le patient, il ne se rend pas vraiment compte de la différence. Nous, on pense que ça allège la charge chimique. Et pour le patient qui, lui, va être en injection tous les 2 mois, c'est vraiment une autre approche thérapeutique.
Du côté du vaccin, ça patine. Plusieurs équipes y travaillent depuis 30 ans, pour le moment sans succès. Par contre, nous explique Marina Kamorchkine, il existe une piste encourageante du côté des anticorps monoclonaux.
On imagine qu'avec quelques perfusions, on arrive chez certains patients à bloquer la réplication virale et qu'on puisse, dans un second temps, éventuellement se passer des médicaments antirétroviraux.
Les essais sont en cours chez l'adulte et chez l'enfant, avec des résultats attendus dans les 5 prochaines années.
Merci Mathilde Cariou. Arrêtons-nous maintenant à l'occasion des journées de la schizophrénie. C'est une maladie psychique qui touche 600 000 personnes en France. Arrêtons-nous donc sur un métier assez récent. Bonsoir Tara Schlegel.
Bonsoir à tous.
C'est celui de médiateur santé. Pair, P-A-I-R. Il s'agit donc, Tara, de pairs, c'est-à-dire d'anciens malades qui aide à soigner les patients. Une licence existe désormais.
Oui, cette formation a tout juste 5 ans et Stéphane Cognon a fait partie de la première promotion. Lui, qui avait toujours travaillé dans le bâtiment après avoir été diagnostiqué schizophrène, a donc repris en 2018 le chemin de la fac.
J'avais 48 ans, donc c'est même pas reprendre parce que c'était les débutés, parce que j'avais arrêté justement à l'époque des troubles. Du coup, moi, je m'étais arrêté au bac, donc je suis arrivé en licence. Et ce qui m'a rassuré tout de suite, c'est que il y avait des gens de 20 ans, mais il y avait des gens de mon âge aussi. Et c'est ça qui est génial, ce mélange. Et tous, avec nos troubles, commencer à travailler pour des notions de rétablissement en santé mentale.
Désormais, Stéphane, parfaitement rétabli, père de 3 enfants, co-anime à l'hôpital Sainte-Anne des groupes d'éducation thérapeutique où il partage son vécu avec les patients.
J'ai pas du tout de posture descendante comme peuvent avoir certains soignants. Je suis horizontal, en fait. Je dis pas c'est comme ça que tu dois faire. En fait, je dis voilà, je te partage mon expérience. Et donc on échange, c'est on parle ensemble. Et c'est ça, je pense, quand je dis voilà, je connais l'hôpital de l'intérieur. J'ai été hospitalisé, je sais quand je prends tel médicament, voilà ce que ça me fait. Mais même au niveau des symptômes. Les symptômes, c'est vachement important d'essayer de les reconnaître assez tôt. Parce que par exemple, moi, quand j'avais mes hallucinations, mes délires, j'avais l'impression que la télé ne parlait qu'à moi. J'ai eu aussi des délires mystiques. J'avais l'impression que je parlais à Dieu et que j'avais un vrai dialogue, etc. Donc ça, c'était tous ces symptômes. Et
quand vous en parlez...
Voilà. Et c'est ça, quand j'en parle à d'autres, ah ouais, t'as été hospitalisé, tu sais ce que c'est, etc. Donc peut-être qu'ils vont aller à des confidences un peu plus en disant, celui-là, il connaît. Et on va avancer peut-être plus rapidement.
Bonjour. Un café allongé, s'il vous plaît.
C'est à l'université, à Jussieu, que Bob vient de reprendre ses études de biologie à peine remis de sa maladie psychique. À 21 ans, grâce au groupe animé par Stéphane, il a repris confiance.
On découvre des parcours qui sont différents d'une autre. Peut-être qu'il y a un père aidant qui, lui, du coup, est vraiment expert dans le domaine. On apprend qu'on peut totalement s'en sortir. Et c'est dans ce sens-là que j'ai trouvé ça super intéressant.
Au point d'aider Stéphane à réfléchir au contenu d'un nouvel atelier d'éducation thérapeutique pour parler des traitements avec des patients encore à l'hôpital.
À l'hôpital, c'est vrai qu'on n'avait pas du tout la main sur les traitements. On nous donnait des choses, on ne savait même pas ce qu'on prenait. C'est sûr que si on n'a connu que ça, on ne peut pas s'imaginer qu'il existe autre chose. Du coup, moi, mon rôle à ce niveau-là, ça a été plus me donner mon avis par rapport à ce qui m'a plu, ce qui m'a un peu moins plu.
Co-construire un programme, être acteur de son soin, qu'on soit bipolaire, dépressif, schizophrène, c'est un outil majeur du rétablissement, rappelle le psychiatre Boris Chaumette.
Pendant longtemps, on a considéré qu'on ne pouvait pas donner le diagnostic à une personne qui souffrait de schizophrénie, qu'elle n'était pas en capacité de le comprendre. On s'est rendu compte que c'était totalement faux. Aujourd'hui, il y a des programmes de psychoéducation où on apprend aux patients à reconnaître ses symptômes. Et dans cet effort-là, donc il y a un partage d'informations avec les pères aidants, parce que c'est pas facile de poser une question à un médecin de quel va être le pronostic, comment je vais vivre, comment je vais rencontrer quelqu'un, comment je vais faire ma vie avec cette maladie. Le médecin, il n'a pas l'expérience de la maladie. Il a l'expérience des traitements, il connaît la maladie pour avoir vu des patients, mais il n'a pas vécu lui-même la maladie. Donc cette nouvelle forme, on appelle le savoir expérientiel, elle va être extrêmement importante pour accompagner les personnes.
Une trentaine de médiateurs santé pair, toutes maladies confondues, sont ainsi formés chaque année.
Merci beaucoup Tara Schlegel. Un mot sur Netflix, sur l'adaptation qui est sortie hier, l'adaptation de ce qui est considéré comme l'un des plus grands romans contemporains de science-fiction, Le problème à trois corps, porté notamment à l'écran par l'équipe qui était derrière Game of Thrones. Ce blockbuster pour petit écran est à l'origine un triptyque imaginé par l'auteur chinois Liu Cixin, j'espère que je prononce bien, ce colossal récit de science-fiction paru en Chine en 2006, puis à l'international a conquis plus de 260 millions de lecteurs à travers le monde. Ce genre littéraire, aujourd'hui très en vogue en Chine, y a pourtant été un temps censuré, Pierre Repère.
Avec le succès des œuvres de Liu Cixin, la science-fiction semble avoir émergé en Chine il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Pourtant, ce genre littéraire n'a dans le pays du milieu rien de neuf, explique Gwenaëlle Gaffric, professeure de langue et littérature chinoise à l'université Jean Moulin Lyon 3.
Au début du XXe siècle, c'était déjà un genre qui était promu par les intellectuels de l'époque pour créer une nation moderne, en fait, qui se basait sur la science, qui essayait de se projeter dans le futur. C'est une littérature qui a déjà un siècle d'histoire en Chine.
Sous Mao, si une forme de science-fiction utopique est acceptée à travers les romans scientifiques, le genre est néanmoins censuré tout au long de la révolution culturelle. Une censure qui se poursuit au cours des années 80.
Ça a été considéré comme la musique rock, par exemple, ou d'autres, comme provenant de l'Occident et un temps un peu de la pollution spirituelle, c'était le terme utilisé. Ça a mis un coup d'arrêt, en fait. Et puis, il y a effectivement, à partir des années 90-2000, une nouvelle vague de science-fiction, et Liu Cixin fait partie un peu de cette vague-là.
Ces auteurs sont néanmoins confrontés à un problème. Comment raconter l'utilisation des technologies de surveillance par les gouvernements dans un pays où ces dernières sont utilisées à ce dessein. Gwenaël Gaffric.
On trouve aussi des récits d'auteurs chinois comme dans Black Mirror ou dans la science-fiction euro-américaine de critiques ou d'interrogations ou de dystopies. Là où peut-être ça diffère un petit peu, il est plus compliqué de dire que voilà, c'est sous le règne du Parti communiste.
Aujourd'hui, le gouvernement chinois a bien compris que la science-fiction est un outil de soft power à l'international. Dans le blockbuster Terre errante en 2019, déjà une adaptation d'une nouvelle de Liu Cixin, le salut de la Terre se jouait grâce à des héros chinois, une promotion en douceur du rêve chinois voulu par Xi Jinping.
Pierre Repère, le temps demain se rafraîchira partout en France avec de nombreuses averses attendues au nord. La journée se poursuivra sous un ciel variable sur le quart sud-ouest, tandis que le sud-est devrait bénéficier d'un bel ensoleillement. Côté température, les maximales perdront souvent 5 à 10 degrés par rapport à la veille. Dans l'après-midi, il fera de 9 à 12 degrés au nord, 12 degrés à 16 degrés au sud, encore 17 à 21 degrés autour de la Méditerranée. C'est la fin de ce journal. Il a été préparé avec Jean-François Braun, à la technique Florent Bujon.